Bon, j'ai envie de repartir de l'expérience de lecture un peu brute, comme ça, à sec, quoi. Parce que l'œuvre de Deleuze et Guattari, ça reste, et ça restera toujours, une œuvre qu'on juge difficile, qu'on juge hermétique. Et il faut se souvenir de cette expérience. Même les spécialistes de cette œuvre devraient toujours se remettre à la place de quelqu'un qui la découvre, quoi. Alors ça peut créer une impression brutale, en fait, quand on est confronté à trop d'étrangeté, trop de raccourcis, trop de sous-entendus, c'est difficile. Voilà, et en même temps, j'aimerais bien que ça nous permette d'évaluer la progression qu'on va faire dans l'œuvre de Deleuze et Guattari, d'avoir fait cette première expérience de lecture peut-être difficile, et puis de revenir, de relire. C'est le passage que je voudrais qu'on utilise donc en dernière partie de séance, comme j'ai un peu pris l'habitude de le faire, pour ce qui est de la technique d'écriture, quoi. Hein, on le regardera aussi sous ce jour-là tout à l'heure. Donc, comment je vais faire pour essayer de rendre cette langue-là, parce que c'est un problème de langue, parlante, quoi. Ce qui est quand même normalement le travail d'une langue. Il faut que je vous dise d'abord en introduction que c'est probablement mon livre préféré. Ça vous aidera pas forcément à mieux comprendre, mais ça vous mettra dans l'esprit qu'on peut s'attacher tellement à ce texte qu'il peut devenir le texte préféré, quoi. Vraiment, toutes catégories confondues, voilà. Je parle de littérature, de philosophie, de discours savant en général. C'est pour moi l'une des expériences de lecture les plus fortes. Elle a participé au déclenchement de l'expérience d'écriture. C'est complètement dans les clous du projet qui nous réunit ici, à savoir ces espèces de témoignages de lecture articulés à mon travail d'écriture, quoi. Pourquoi est-ce que ce livre a joué une influence aussi déterminante, si j'essaie de le regarder avec du recul aujourd'hui? Je pense que c'est parce que c'est un livre-monde. C'est un livre qui propose toute une cosmologie. Pas au sens où c'est un livre qui parle de l'espace. Il en parle, mais il parle pas que de ça. C'est un livre qui repropose une vision de l'univers, quoi. De ce que font les hommes, de ce que c'est que la nature, de la place que prend la Terre dans le cosmos aussi, il en est question. Donc voilà, si vous voulez, c'est un livre qui m'a aidé à me resituer. Moi, je viens plutôt d'une famille catholique, pour le dire vite, en supprimant les problèmes, ce qui est toujours une fausse manière de présenter la famille. Mais disons ça. Donc, ce qui est formidable avec le catholicisme, c'est que c'est l'invention de l'universalité, quoi. C'est les premiers à dire « Dieu, ça concerne tout le monde ». Y compris quand on baptise avec l'épée d'un côté et le goupillon de l'autre. Mais en tout cas, l'amour de Dieu inventé par les catholiques, c'est un amour qui concerne tout le monde. C'est les inventeurs de l'universel. C'est quand même pas tout à fait rien. Bon, il faut voir de quel universel on parle. Je peux devenir très critique après, mais... En Occident, c'est les grands inventeurs de l'universel. C'est la grande différence avec la notion de peuple élu, à la fois chez les juifs ou chez les protestants, par exemple. Qui sont deux formes d'élection différentes, mais c'est quand même un trait commun. Donc moi, j'ai grandi dans un cosmos plein, vous voyez. L'amour de Dieu, ça comprenait tout. C'était quand même très réconfortant. Et puis, on fait son chemin, chacun, et je suis sorti de cette vision-là des choses, mais le problème, quand vous avez été confronté à l'universel de très bonne heure, c'est que ça vous manque. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une sorte de dépendance à ça. Et ce qui était formidable avec ce livre, c'est que c'était la première fois que j'étais reconfronté à une somme englobante, quoi. Alors, du coup, vous mesurez l'ambition délirante d'un projet philosophique et littéraire, puisque je crois que c'est aussi un livre de littérature, comme celui-là. C'est une œuvre folle, quoi. Surtout à l'époque où elle a été écrite, c'est-à-dire dans le dernier tiers du XXe siècle, quoi. Autant on peut encore, jusqu'au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, imaginer un auteur qui arrive à totaliser tout le savoir disponible à son époque. C'est une des grandes choses qu'on dit à propos de la Renaissance, par exemple. 16e siècle, bon, il y a encore des hommes qui sont capables d'embrasser tout le savoir. Au XVIIe, bon, ça se trouve encore, des gens comme Leibniz, par exemple, c'est des espèces d'esprits mondes, quoi. Bon. Mais au XXe siècle, ça devient dingue, quoi. Parce que à partir du XIXe siècle, on est dans une époque de très grande spécialisation des savoirs, donc il y a des ramifications de plus en plus raffinées de ce qu'on sait. Et faire la synthèse, ça devient trop gros pour un cerveau. Bon, et pour la longueur d'une vie. Alors là, ils s'y sont mis à deux. Ça aide. Surtout quand on voit la conception qu'ils ont de l'individu, qui est déjà une conception de l'individu comme multiple. Ils le disent, je ne sais plus si c'est au début de celui-là ou au début de... Enfin, voilà, comme on était déjà deux, ça faisait déjà beaucoup de monde. Donc il y avait ce sentiment de totalité que je retrouvais, mais qui m'était présenté évidemment sous un autre biais que celui que j'avais pu recevoir enfant, puisque c'est une cosmologie de la joie que propose Deleuze et Guattari. Je crois que la clé pour rentrer dans cette œuvre, c'est vraiment la joie. Et pas au sens où ils écrivaient en sautillant, mais au sens où ils reprennent de Spinoza, qui est l'une des grandes influences de Deleuze, ce concept de joie comme étant la grande puissance vitale, le revoilà, hein, mon dada, qu'elle est toujours menacée d'être domestiquée par les grandes forces institutionnelles d'une société que peuvent être, bon, au premier plan, les religions monothéistes, mais aussi l'appareil d'État, le travail tel qu'il est aliénant. Mais voilà, d'après eux, il y a au cœur de la vie une puissance qui s'appelle la joie dans la perspective de Spinoza. Donc je vais y revenir à cette notion de joie à plusieurs reprises, mais je voulais vous signaler ça dès le départ, quoi, parce que si vous voulez, c'est le grand souffle d'air qu'on se prend quand on empoigne cette œuvre, quoi. Un cosmos qui serait promoteur de la joie, défenseur de la joie. Donc du coup, on accepte pas mal d'efforts de lecture, hein, une fois qu'on sent que c'est ça qui se passe dans ce livre. Je vais faire deux choses ensuite, après cette espèce de petit préambule autobiographique, pour essayer de traduire de la langue qu'on partage tous à la langue de Deleuze et Guattari. Je voudrais repartir du titre du livre, Mille plateaux, titre mystérieux, et ensuite assez longuement développer cette formule qui, je crois, correspond au travail que se donnent Gilles Deleuze et Félix Guattari, créer des concepts pour s'attaquer à des problèmes. Ça va être ma formule, un peu comme la dernière fois avec Virginia Woolf, c'est avec quelques heures dans la vie d'une femme. Là, ça va être créer des concepts pour s'attaquer à des problèmes. Je crois que c'est vraiment la démarche qui permet de comprendre, par exemple, pourquoi Deleuze et Guattari sont aussi inventifs dans leur lexique. Pourquoi est-ce que, du coup, on a l'impression comme ça qu'ils parlent une langue qui n'est que la leur ? Ben, c'est parce qu'ils ont besoin de mots nouveaux pour résoudre des problèmes nouveaux. Et comme c'est la joie qui est à la clé, ben, c'est quand même assez motivant. Voilà, donc bah, c'est des choses très simples, hein, que je me fixe finalement, le titre et puis une espèce de formule pour justifier et expliquer ce travail de néologisme, au fond. Mille plateaux. Bon, alors il faut d'abord que je lève une ambiguïté. Ça n'est pas un message subliminal pour vous inviter à voter François Hollande. Mille plateaux étant très probablement un titre inspiré par l'endroit où Deleuze allait passer ses vacances dans le Limousin, tout près du plateau de Mille Vaches. Le livre est publié en 1980, c'est une époque où... Il y a encore, parce que ça demeure jusqu'à aujourd'hui, cette espèce de tendance qu'on a appelée le retour à la Terre et qui a fait que le plateau de Mille Vaches est devenu une zone connue, y compris des plus urbains, y compris des personnes qui n'étaient pas du tout aspirées par ce retour à la Terre. Le plateau de Mille Vaches, c'est un nom qu'on entend beaucoup à l'époque. Donc Deleuze avait une maison de vacances là-bas, que je suis allé voir d'ailleurs, qui est une grande maison, qui fait très espagnole dans cet environnement limousin, c'est surprenant. Et on est juste à côté du plateau de Mille Vaches. Donc, Mille plateaux de Mille Vaches, bon, c'est, c'est pas juste une blague. Hein. Et bon, évidemment, c'est en Corrèze. Donc, c'est pas juste une blague. 1000 vaches, ça veut pas dire 1000 bovins, ça veut dire 1000 vasques, en fait. 1000 sources. Ça s'appelle comme ça parce que ça pisse la flotte. Quoi. Oui, c'est du patois, quoi. Vache, vache, vasque, qui renvoie à la source. En fait. Oui. Il y a les vaches à lait, puis il y a les vaches à eau. Ça a pu engendrer chez Deleuze et Guattari une rêverie sur la liquidité comme l'élément liquide comme multiple. Il n'y a jamais avec l'eau un robinet. C'est débile d'imaginer l'eau comme accessible par un robinet. L'eau, c'est toujours quelque chose qui déborde, qui fait une nappe qu'on peut attraper à plein d'endroits différents, etc., etc. Donc, je pense que ce contexte géographique, qui était le contexte de travail, ça les a aidés à se tourner vers un concept qui est vraiment fondamental dans leur travail et qui est celui de multiplicité. L'eau, c'est quelque chose de multiple. On ne devrait jamais dire l'eau, on devrait toujours dire mille eaux. Bon, et mille, là, c'est pour dire, dans mille plateaux comme dans mille vasques, c'est pour dire beaucoup. Ça ne consiste pas à dire 999 plus 1, ça consiste à dire l'indéfini. Mille, c'est l'indéfini. Bon, ça, ça va nous aider. Pourquoi plateau ? À plateau de cinéma, oui. C'est intéressant parce que Deleuze a beaucoup travaillé sur le cinéma. Eux, ils ont une définition du plateau qui renvoie d'abord, dans le premier chapitre, enfin, qui n'est pas un chapitre, qui est un plateau, justement, dans Rhizome, la première partie du livre, un plateau, c'est une notion qui est censée se substituer à la notion de chapitre dans l'organisation d'un livre. Ils disent, nous, on n'a pas écrit un livre en chapitre. On a écrit un livre qui est fait de plateaux. Alors, quelle est la différence ? Un chapitre, ça occupe une place dans une organisation d'un livre qui est une organisation du type arbre. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Il y a un ordre, il y a une succession. Les chapitres ne sont pas interchangeables. Si vous lisez Le Père Goriot en commençant par le milieu, c'est pas fait pour ça. Vous pouvez le faire, mais c'est pas fait pour ça. Un plateau, ça fonctionne comment ? C'est ce qu'ils disent dans la quatrième de couverture. Chaque thème est censé constituer un plateau, c'est-à-dire bon, une région continue d'intensité. Le raccordement des régions se fait à la fois de proche en proche et à distance, suivant des lignes de rhizome qui concernent les éléments de l'art, de la science et de la politique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que un plateau, contrairement à un chapitre, n'a pas de place assignable dans un livre. On peut commencer par le plateau 12, aller au plateau 3, se déplacer vers le plateau 1, le plateau 7, etc. On peut faire son chemin dans le livre. C'est une organisation du livre totalement différente. Alors, ils disent quand même dans l'introduction, on préférerait que vous commenciez par l'introduction et que vous finissiez par la conclusion. Mais à l'intérieur, promenez-vous dans les bois, quoi. C'est exactement ça. Bon, cette notion, la notion de plateau, donc je pense que ça vient d'une rêverie par rapport à la géographie, mais eux, ils l'explicitent comme un emprunt à un anthropologue, disons, très important aux États-Unis qui s'appelle Gregory Bateson. B-A-T-E-S-O-N. Gregory Bateson. C'était le conjoint de Margaret Mead. Donc, ils ont travaillé ensemble sur des peuplades d'Océanie. Et puis ensuite, Bateson, lui, il s'est beaucoup intéressé au cas de schizophrénie, ce qui va être très très important pour Deleuze et Guattari. Revenu aux États-Unis, il va se mettre à avoir un travail très proche de celui d'un psychiatre. Et il finira par s'intéresser à la cybernétique, donc les rapports entre l'homme et la machine. Et il décrit, il élabore la notion de plateau à partir de l'étude de la sexualité chez un peuple très précis en Océanie, qui a été étudié par Margaret Mead aussi. Il remarque que dans les rapports entre la mère et l'enfant, il y a une stimulation de l'activité sexuelle de l'enfant par la mère, mais qui n'est pas fléchée, et c'est normal, vers un pic, une intensité finale, un orgasme, etc. etc. C'est fléché, l'activité de la mère sur l'enfant, vers le maintien d'une excitation permanente. Et c'est ça qu'il appelle un plateau. Un plateau, c'est une région continue d'intensité. C'est ce que disent Deleuze et Guattari dans la quatrième de couverture. Peut-être que maintenant, c'est plus clair. C'est une manière de stimuler de façon continue, régulière, la sexualité d'un enfant. Mais Bateson se rend compte que c'est pareil dans les conflits entre les hommes adultes. Ils ont une manière de tout le temps se bâcher, en fait, si vous voulez. Ils sont tout le temps en train de s'envoyer des petites... Donc, ils sont sur un plateau d'intensité constante dans la gestion de la violence sociale. Voilà, donc au départ, c'est une notion d'anthropologie pour décrire un certain type de relation, soit entre la mère et l'enfant, soit entre les hommes, sous forme d'intensité constante. Et Deleuze et Guattari, comme c'est très symptomatique de leur travail, ils empruntent cette notion et ils se l'approprient. Ils en font un concept philosophique. C'est même comme ça qu'ils définissent l'activité philosophique, en fait, comme une création de concept. C'est de ça que je vais vous parler une fois que j'aurai réglé la question du titre. Ils empruntent la notion de plateau à Bateson et ils disent « Nous, on va écrire en plateau. On va utiliser la notion de plateau dans l'écriture. » C'est-à-dire qu'on va faire des régions continues d'intensité. Et non seulement ces régions sont des régions continues d'intensité pour chacune d'entre elles, mais elles sont infiniment connectables les unes entre les autres. Donc, maintenant, promenez-vous dans les bois. Vous pouvez prendre notre livre et l'attraper par le milieu, vous promener, faire des sauts, sauter des chapitres, le lire dans différents ordres, etc., etc. Donc, le titre « 1000 plateaux », c'est pour dire, bon, il n'y en a pas 1000, hein, des plateaux. Il y en a combien ? 14 ? 15 ? 15. Mais, puisqu'ils sont interchangeables, interconnectables, vous pouvez faire une infinité de lectures. Entre ce que je vous ai dit en termes de cosmogonie et en termes de projet formel, là, sur les 1000 lectures possibles, vous voyez l'enjeu colossal de l'expérience, quoi, de la tentative philosophique. C'est pratiquement la première fois qu'on essaie de faire un livre comme ça. Ça a l'air d'être un projet formel, qui peut ressembler un peu, par exemple, au jeu littéraire de Lulipo, où on peut lire des textes dans un sens et dans l'autre, vous savez, qu'on appelle les palindromes. Ça peut ressembler comme ça à une sorte de blague un peu formelle, un peu concentrée juste sur la forme du livre. Bon. Qu'est-ce qu'il en serait du fond? Quand on fait une expérience comme celle-là, qu'est-ce qu'on fait du fond? Immédiatement, Deleuze et Guattari déplacent une interprétation comme celle que je viens de faire en refusant la différence entre forme et fond. Donc la forme, c'est la manière dont un texte est organisé, et le fond, c'est ce qu'il dit, c'est son contenu. Ça, c'est ce qu'on apprend à l'école. Quand on fait des dissertations, on vous dit la forme, ça va, mais le fond, généralement, c'est le fond qui va pas. Des fois, c'est la forme. Bah, Deleuze et Guattari, en tout cas, nous disent oubliez la forme et le fond, ça n'existe pas. Cette différenciation n'existe pas. Ce qui veut dire que leur projet n'est pas seulement un projet formel. C'est pas juste une espèce de tour de force virtuose d'intellectuels au sommet de leur art dans les années 70-80. C'est un enjeu très profond que de faire un livre infiniment pénétrable. Et ce que je viens de dire est une porte d'entrée très utile dans tout leur travail. Le refus de la différence entre la forme et le fond, c'est un refus philosophique. C'est un refus qui a des enjeux très importants. Eux, ils proposent, à la place d'une distinction entre forme et fond, une articulation entre matériaux et force. Bon, ils vont passer beaucoup de temps dans cet ouvrage à contester des dichotomies déjà existantes pour proposer des articulations à la place. Dichotomie, vous voyez tout ce que c'est, enfin des oppositions, quoi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire refuser fond et forme, matière et idée, refuser fond et forme, refuser matière et idée, et substituer à ça une articulation entre matériaux et force. Alors c'est une proposition intellectuelle très puissante. Là aussi ils font un travail d'emprunt, hein, comme ils ont fait avec Bateson pour prendre la notion de plateau. Matériaux, force, c'est un truc qu'ils reprennent aux tailleurs de pierre, et plus précisément à ceux qui font ça. Ça peut pas être pensé en termes de cette voûte-là, cette double voûte, elle peut pas être pensée en termes de fond, forme, ou matière et idée. On peut pas avoir l'idée d'une voûte sans la faire. C'est-à-dire que le truc au milieu qui porte tout, en fait, ça peut pas être une idée. Ça vient pas d'un plan intellectuel. Ça vient d'une pratique. Et il n'y a pas, donc, dans cette double voûte, une idée qui aurait été projetée sur la matière, quelqu'un qui aurait fait un plan et qui aurait confié ça ensuite à un ouvrier pour qu'il exécute le plan. Il y a une pensée du matériau en tant qu'il est traversé par une force, à savoir le poids, l'attraction. On ne peut pas différencier le matériau de la force. Vous ne pouvez pas considérer une pierre dans le vide, comme pure pierre, comme pure matière. Vous êtes obligé de la penser en tant qu'elle tombe, c'est-à-dire en tant qu'elle est prise par une force. Et de fait, par exemple, le système des compagnonnages dans la création des cathédrales, c'est un système qui est antérieur au système ingénieur, à la hiérarchie entre l'ingénieur et l'ouvrier. Les compagnons sont des gens qui disposent d'un savoir qui n'est pas un savoir d'ingénieur, qui disposent d'une pratique manuelle qui n'est pas celle d'un ouvrier. Ils articulent ces deux choses, le savoir et le savoir-faire, la tête et les mains, si vous voulez, d'une façon qui conteste tout à fait l'idéologie de M. Raffarin et son intelligence de la main. C'est pas l'intelligence de la main, à l'époque des compagnons, qui serait une manière de dire « les manuels ont une approche intellectuelle du manuel ». Ce que nous apprend le travail sur les tailleurs de pierre, Deleuze et Guattari s'inspirent, c'est qu'on ne peut pas séparer l'idée et la forme, donc on ne peut pas séparer le travail manuel du travail intellectuel. Tout ça, c'est des dichotomies qui ont des raisons politiques. C'est une division du travail qui correspond à un certain état de la société, qui est un état aliénant pour eux. C'est la lutte des classes, en gros, quoi, entre l'ingénieur et l'ouvrier. typiquement c'est la lutte des classes. Alors qu'on peut tout à fait concevoir, et ça s'est fait, un ordre professionnel, celui des compagnons, qui repose sur une connaissance de la transformation du monde par le travail en termes de matériaux-force. Ce que savaient faire les compagnons, c'était penser les choses en termes de matériaux-force. Donc eux, ils disent, bah, notre livre va être fait un peu comme on a fait les cathédrales. Il n'y a pas d'un côté notre projet formel de faire 1000 plateaux, et de l'autre, un contenu qu'on glisserait là-dedans, de façon à coller à notre projet formel. Il y a un matériau intellectuel qui est traversé par des forces. Il faut essayer de penser la production intellectuelle de ce livre comme les pierres qui tiennent dans la voûte. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a un enjeu philosophique très puissant derrière? Parce que ça rejoint, et ça c'est capital, la dichotomie entre les deux grandes écoles philosophiques qui s'inventent dès le début de la philosophie en Grèce. D'un côté, la philosophie idéaliste, et de l'autre, la philosophie matérialiste. C'est les deux grands courants de la philosophie. D'un côté, Platon, qui est faussement le scribe neutre de Socrate, mais en fait, Platon, semble-t-il, trahit Socrate, et construit une philosophie idéaliste. Je vais vous donner un exemple tout à l'heure. Et puis, de l'autre, vous avez les gens comme Lucrèce, qui sont les premiers atomistes, les premiers à penser que la réalité est d'abord de la matière. Bon, ces deux grandes écoles, en fait, elles structurent toute l'histoire de la philosophie. C'est la guerre, c'est une guerre pour rire, comme dit Deleuze, c'est la guerre entre ces deux camps de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, quoi. C'est toujours une guerre qui est en cours. Je vais revenir à Platon rapidement, mais du coup, faut que je passe à cette histoire de créer des concepts pour s'attaquer à des problèmes. Parce que justement, Deleuze et Guattari font partie de la lignée, disons, des matérialistes, et c'est une lignée qui pose les problèmes d'une façon très différente de la lignée des idéalistes. Donc on rentre dans ce qui fait le cœur de leur travail et qui consiste à créer des concepts pour s'attaquer à des problèmes. Je vais revenir à Platon très vite, à cette histoire d'idéalisme et de matérialisme. Créer des concepts pour s'attaquer à des problèmes. Créer des concepts, c'est dans « Qu'est-ce que la philosophie ?», un ouvrage que Deleuze et Guattari publieront plus tard. C'est censé être, pour eux, l'activité même de la philosophie. Qu'est-ce que fait le philosophe ? C'est quelqu'un qui crée des concepts. Et ça, c'est très important. Parce que ça élimine tout un tas de définitions qui pour eux sont fausses, de définitions du philosophe qui sont fausses. Deleuze le dit très bien, un philosophe c'est pas quelqu'un qui pense, c'est même pas quelqu'un qui réfléchit, c'est quelqu'un qui crée des concepts. On va voir ce que ça veut dire. En tout cas, si on veut comprendre ce que ça veut dire, il faut déjà savoir que ça c'est un héritage de Nietzsche, bon, qui est un philosophe absolument capital pour Deleuze et pour Guattari. Nietzsche est le premier à penser le philosophe en tant qu'artiste. Bon, les philosophes, ils n'ont pas arrêté de se comparer à d'autres métiers dans toute l'histoire de la philosophie. Kant, par exemple, c'est quelqu'un qui érige des tribunaux. C'est quelqu'un qui pense la philosophie comme une activité juridique. Ça consiste à dire qu'est-ce qui est bien rationnel et qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est le tribunal de la raison. Il confronte toute l'expérience humaine à la raison. Et il dit qu'est-ce qui est rationnel, qu'est-ce qui ne l'est pas. Il fonctionne sur le mode du tribunal. Peu de temps avant lui, il y avait des gens qui présentaient l'activité philosophique comme celle d'un enquêteur. Des bouquins qui sont sortis qui s'appelaient Enquête sur. Par exemple, Hume, Enquête sur l'entendement humain. Nietzsche y présente le philosophe en tant qu'artiste. Il met la philosophie au même plan que la peinture, la musique, il a beaucoup travaillé sur Wagner, la littérature, bien sûr, et lui-même il tente une philosophie littéraire. Ainsi paraît Zarathoustra, c'est un long poème. Il se met à écrire des aphorismes, ce qui était plutôt le propre des littéraires, comme La Bruyère, La Rochefoucauld, tout ça. Donc voilà, à la fois dans le contenu et dans la forme, mais même pour Nietzsche, cette dichotomie ne fonctionne plus très bien, justement, on a affaire à un philosophe artiste. Bon. C'est pour ça que Deleuze et Guattari disent la philosophie, c'est créer des concepts, et non pas produire ou inventer, c'est créer des concepts. Et ils disent, ça c'est notre travail, créer des concepts, mais ça a toujours été le travail de la philosophie, depuis Platon. Alors à partir de là, bah, c'est une première manière de comprendre que Deleuze et Guattari n'aient aucun scrupule à inventer des termes. Puisque la philosophie, c'est une création de concepts, si on crée des concepts, bah on crée le nom des concepts. Un concept, ça a un nom. Je ne peux pas créer un concept dans le vide. Il faut bien que je le nomme. Et si on a besoin de beaucoup de concepts à une époque donnée, ce qui pour Deleuze et Guattari est leur manière de penser leur époque, ils pensent que c'est une époque qui a besoin de concepts, eh ben on y va, quoi. On y va, on fait tourner, comme certains font tourner la planche à billets, on fait tourner la planche à langage. Alors, d'où sur leur planche à langage, bon, rhizome, hein, le fameux rhizome, qui est un de leurs concepts les plus célèbres. Multiplicité, devenir, qui va se décliner en devenir femme, devenir enfant, devenir animal, devenir imperceptible, il y a toutes sortes de devenir, j'en ai déjà un petit peu parlé la dernière fois avec Virginia Woolf. Ritournelle, territoire, machine de guerre, appareil de capture, corps sans organes, bon, c'est une pensée qui fait proliférer les concepts. Et ça peut paraître pénible, ça peut paraître jargonnant. Pourquoi est-ce qu'il faut créer des concepts? Bah, parce qu'on est philosophe, mais bon, ça suffit pas. S'il y a des philosophes, c'est bien pour une raison. Si on crée juste des concepts pour faire le philosophe, c'est un peu débile. Comme dirait Deleuze, il aime beaucoup l'adjectif débile. Bon, il y a un document qui est extraordinairement précieux pour se familiariser avec cette œuvre d'une façon très séduisante, c'est l'abécédaire, qui est un recueil, qui est un ensemble de vidéos qui ont été tournées par Claire Parnet avec Yann Mouillet-Boutan, et qui consiste à interroger Deleuze sur un certain nombre de notions, qui sont souvent des concepts, mais pas toujours, qui sont classées par ordre alphabétique, d'où le terme d'abécédaire. Donc A comme animal, B comme boisson, parce qu'il explique pourquoi il a été alcoolique et pourquoi il a arrêté, C, je crois que c'est concept, D comme désir, E comme enfance, F, je sais plus quoi, G comme gauche, etc., etc. Et dans l'abécédaire, Deleuze explique à concept, justement, C comme concept, je crois, que derrière chaque concept nouveau créé par des philosophes, il y a des problèmes propres aux formations sociales dans lesquelles ces concepts émergent. Par formation sociale, vous pouvez comprendre société, époque, voilà. À chaque époque, il y a des problèmes nouveaux, et du coup, les philosophes, leur boulot, c'est de produire du concept pour essayer de résoudre ces problèmes. Et il prend un exemple merveilleux chez l'ennemi, chez Platon, le père de la philosophie idéaliste. Platon, le grand concept qu'il invente, qui est un concept quand même formidablement inventif, même si c'est en même temps un concept qui a fait beaucoup de mal, c'est le concept d'idée, d'où l'idéalisme. Qu'est-ce que c'est qu'une idée ? Nous dit Deleuze, c'est la conception d'une chose qui ne serait pas autre chose qu'elle-même. Une idée, c'est ça. Une chose qui ne serait pas autre chose qu'elle-même. Je vais prendre un exemple. Un exemple d'une chose qui ne serait pas autre chose qu'elle-même. Deleuze nous dit, essayons de penser une mère, M-E-R-E, qui ne serait que mère. Donc, normalement, une femme, dans notre expérience, elle peut être mère, mais elle est systématiquement fille. Elle est fréquemment épouse. Vous pouvez penser une mère qui ne serait pas épouse, mais vous pouvez rencontrer une mère qui ne serait pas épouse, vous aurez beaucoup de mal à rencontrer une mère qui n'est pas fille. Alors il faudrait voir, hein, y a des personnages qui ressemblent beaucoup à ça. La Vierge Marie, on peut se demander si c'est pas justement le concept de mère. Une mère qui ne serait que mère. Ce qu'invente Platon, c'est la possibilité d'essayer de penser une mère qui ne serait que mère. Et c'est ça l'idée de mère. Une mère pure. La mère par excellence. La mère des mères, comme on dit, le cantique des cantiques. Ça, c'est l'idée. L'idée, c'est ça. Une chose en tant qu'elle n'est pas autre chose qu'elle-même. Vous imaginez l'opération mentale que ça suppose. Enfin, c'est merveilleux de s'être préoccupé de ça, quoi. Imaginez une mère qui n'est que mère. C'est applicable pour Platon à tout. Et c'est même ça qui, pour lui, est la seule chose vraiment réelle. Et c'est là qu'il est idéaliste. Il dit, ce qui est le plus réel, ça n'est pas les mères qu'on peut rencontrer dans le monde, ou les chaises qu'on peut rencontrer dans le monde, ça n'est pas ce dont on peut faire l'expérience, c'est les idées. C'est plus réel parce que c'est plus pur. Même si vous n'avez jamais rencontré une mère qui n'est que mère, et de fait on n'est pas nombreux à avoir vu la Vierge, même si vous n'avez jamais rencontré l'idée de chaise, et qui comprend toutes les chaises existantes, c'est pourtant ça, pour Platon, qui est le plus réel. Parce que c'est le plus pur. Et que Platon définit des degrés de réalité qui sont en fait des degrés de pureté. Alors voilà, Deleuze commence par expliquer ça. Alors on est toujours bien content quand on a compris ce que c'était que le concept d'idée d'abord, parce que c'est quand même pas évident. Une mère qui ne serait que mère, c'est vrai que c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément tous les jours. Et puis il nous dit, mais pourquoi est-ce que c'est Platon qui invente ça? Pourquoi est-ce que ça émerge à ce moment-là? C'est pas un hasard. C'est en rester à ce que je viens de vous dire, ce serait idiot. Ce serait juste une manière de... une sorte de pirouette intellectuelle. Dire oui, vous comprenez, maintenant vous allez pouvoir penser une mère qui n'est que mère. Bon, ça vous fait une belle jambe. Sauf que, pourquoi est-ce que c'est Platon qui invente ça? Platon, c'est un grec du 5e siècle. Qu'est-ce qui se passe en Grèce au 5e siècle? On invente, par exemple, deux choses absolument capitales, outre la philosophie, on invente la démocratie et la gymnastique. Qu'est-ce que c'est la démocratie et qu'est-ce que c'est la gymnastique? Pourquoi est-ce que ça s'invente à cette époque-là? Parce que les Grecs sont des gens qui inventent des hommes libres à égalité. C'est la formation sociale dans laquelle émerge la notion d'homme libre égaux. Alors attention, hein, ça concerne pas tout le monde, hein, c'est une caste. Ça, on sait. Il faut pas rêver sur l'exemple grec et tout ça. Et qu'est-ce que ça suppose quand les hommes, quand il y a des hommes libres et égaux? Ça suppose un affrontement. Puisque, pour prétendre à la magistrature, par exemple, pour prétendre devenir celui qui tient les comptes au palais, c'est plus en étant le fils de celui qui tenait les comptes avant qu'on va forcément le faire. C'est plus par privilège de type aristocratique. Mais que tout ça est soumis à un exercice démocratique, bah, il faut être le meilleur pour prétendre à la fonction. Mais ça veut dire quoi, être le meilleur? Ça suppose un étalon. Ça suppose un étalon pour mesurer qui est le meilleur. Et comme par hasard, à ce moment-là, il y a un type qui se pointe et qui s'appelle Platon, et qui invente le concept d'idée, c'est-à-dire la chose en tant que pure. C'est-à-dire l'étalon idéal. Quoi. Donc, nous dit Deleuze, le philosophe vient créer des concepts pour régler des problèmes. Il y a un problème en Grèce, c'est bien beau d'inventer la démocratie, c'est bien beau d'inventer la gymnastique, mais il faut des étalons pour classer les prétendants. D'où le podium. Celui qui est le numéro 1 sur le podium, bah c'est celui qui a le plus collé à l'étalon. C'est pour ça d'ailleurs que lui-même, on l'appelle souvent un étalon. Voire pour les chevaux. C'est la même logique. Là où il y a de la mesure, il faut un étalon. Bon, vous voyez, quand Deleuze vous explique ça, parce que Deleuze est un très très grand passeur de la philosophie des autres. Avant d'être quelqu'un qui propose sa philosophie, c'est quelqu'un qui vous rend intelligent pour en lire les autres philosophes. Donc quand on vous explique ça, c'est génial. Il y a des mystères qui s'élucident. Donc Deleuze prend l'exemple d'un philosophe idéaliste, le père de l'idéalisme, pour nous dire voilà dans quel contexte le concept d'idée a été nécessaire. Voilà à quel problème il est venu répondre. Donc moi ce que je voudrais faire, c'est appliquer cette méthode à Deleuze et Guattari. Je voudrais qu'on essaye de comprendre quel problème ils essayent de résoudre en produisant autant de concepts. Et à partir du moment où on aura peut-être un peu aperçu les problèmes qu'ils essaient de résoudre dans leur formation sociale, j'ai bon espoir que la production de concepts assez hermétiques qu'ils proposent nous devienne beaucoup plus accessible, quoi, beaucoup plus compréhensible. Alors, quels sont les grands problèmes de leur formation sociale, de leur époque, de leur sphère géographique et culturelle, auxquels ils s'attaquent en produisant ces concepts si mystérieux, de rhizomes, de multiplicité, de corps sans organes, etc., etc. J'en vois plusieurs des problèmes. Le premier, bon, l'ordre que je vous donne est en fait pas complètement hasardeux, mais j'aurais pu en choisir un autre moi aussi. Hein, c'est un peu des plateaux ce que je vous propose. Enfin, là, partons d'un premier problème, le problème de l'État. C'est un problème crucial quand vous êtes un intellectuel qui produit dans la deuxième moitié du XXe siècle. C'est-à-dire dans la deuxième moitié d'un siècle qui a été marqué par deux guerres mondiales, entre des États. États qui ont eux-mêmes produit des totalitarismes et des boucheries, quoi. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'il y a eu autant de morts, tout simplement. Produits par des problèmes entre États. Qu'on apprenait à l'école à propos de la Première Guerre mondiale et de la Deuxième Guerre mondiale, je me souviens très bien de la formule, c'est, bon, il y a deux types qui se fritent, on sait pas trop, c'est très mystérieux les débuts des guerres, quoi, comment ça se déclenche. Et puis il y a un moment où on vous dit, par le jeu des alliances, et là, c'est la boucherie, quoi. Par le jeu des alliances. Parce que la France était copine avec l'Autriche-Hongrie, machin, machin, et du coup, on se retrouve à faire des tranchées, quoi, où les hommes tombent par millions, ou alors on produit des camps de concentration. Donc c'est des problèmes entre États, les problèmes des guerres qui ont marqué le XXe siècle. Et quand on est philosophe et qu'on est là pour résoudre des problèmes, et ben ça, c'est un sacré problème. Qu'est-ce que c'est que cette formation sociale qu'on appelle l'État, et qui est susceptible de produire des carnages pareils, quoi, en nombre, mais aussi en organisation? Si vous vous penchez sur la structure d'un camp de concentration, c'est effroyable de rationalité. C'est très différent du conflit entre Tutsi et Hutu, par exemple. Vous voyez qu'il y a un conflit beaucoup plus récent qui, moi, m'a marqué dans ma vie à moi. Alors, c'est un génocide, mais très différent. Tuer avec des machettes, c'est très différent de tuer par un système concentrationnaire. Vous voyez? Après, je parle pas en termes de violence, ça c'est autre chose. Mais les modes d'organisation sont très différents. Et ce qu'on appelle les États africains sont justement des États qui peinent à l'être. C'est des organisations étatiques très fragiles. Ce qui fait que la manière de faire la guerre est très différente aussi. Après, en termes de tragédie, je suis pas en train de comparer. Hein. Bon, voilà en tout cas un premier problème auquel se confrontent Deleuze et Guattari. Ils doivent résoudre le problème de l'État. Que Deleuze et Guattari, pour répondre à cette question, mais je vais développer bientôt, en fait, ils remontent à l'origine de l'État. Et c'est une origine très très ancienne. Je vous énumère un peu les problèmes auxquels ils se confrontent, et puis je vais me spécialiser aujourd'hui sur certains problèmes pour en garder d'autres pour la prochaine fois, puisque je fais deux séances sur ce bouquin qui mérite bien au moins deux séances. Donc le deuxième grand problème auquel ils se confrontent, c'est le problème du corps et de l'inconscient. c'est des problèmes qu'ils empoignent, mais c'est pas du tout les seuls à le faire. Et s'ils le font, c'est justement parce qu'ils sont pris dans une galaxie de chercheurs, disons, qui sont eux-mêmes en train de travailler là-dessus. La question de l'inconscient, elle naît à peu près en même temps que la Première Guerre mondiale. Il y a une actualité, ça date d'un peu avant, la notion d'inconscient, les travaux de Charcot, tout ça. Mais ça se pose en même temps. Et ce qu'on découvre avec l'inconscient, les grandes découvertes freudiennes, même déjà chez Charcot, c'est qu'il y a une sorte de pulsion à l'intérieur de l'individu qui échappe à la rationalité. Et les deux guerres mondiales sont des espèces d'illustrations par la catastrophe de ce caractère pulsionnel qui habite chaque individu. Donc il faut empoigner ce truc-là. Qu'est-ce que c'est que cet inconscient qui est capable de nous mener à la boucherie? Donc ça, c'est les deux grands ensembles de problèmes que je vais essayer de traiter aujourd'hui. Il y en a deux autres que je garderai pour la prochaine fois. Il y a le problème du signe, le problème de tous les systèmes de signification. Donc ça se pose notamment autour de cette discipline qui était formidablement dynamique pendant tout le XXe siècle, qu'on appelle la linguistique. Le XXe siècle est un siècle où on se met à se poser de façon cruciale le problème du langage. Donc c'est pour ça, par exemple, que vous avez des plateaux qui s'intitulent « Postulats de la linguistique », plateau 4, et plateau 5, sur quelques régimes de signes. Et le dernier grand problème, c'est plutôt un problème qui sera d'abord traité par une autre discipline des sciences humaines, l'ethnologie, c'est le problème des structures et des échanges à l'intérieur d'une société. Comment est-ce qu'une société se structure et qu'est-ce qui s'y échange? Donc c'est ce qui fait qu'ils ont des analyses de l'économie, par exemple. En fait, si vous voulez, Deleuze et Guattari, c'est comme s'ils voulaient mettre à jour le travail de l'encyclopédie du XVIIIe siècle. Vous voyez, c'est un travail encyclopédique. Ils essaient de reprendre cette espèce de démarche totalisante, mais d'une façon très différente de celle de l'encyclopédie, qui est justement une organisation arborée, une organisation par domaine, bien séparée, avec des parties, des sections. Mais l'ambition, c'est celle-là, c'est une ambition folle. Enfin, traiter tout ça, et dans un livre, c'est délirant. Donc aujourd'hui, je vais essentiellement m'intéresser au problème de l'État, et au problème du corps et de l'inconscient. Il y a une manière d'embrasser la question de l'État et la question du corps et de l'inconscient qui est commune, parce qu'au fond, ce qui préoccupe le plus Deleuze et Guattari, c'est ce qu'ils expliquent, page 403, c'est comment est-ce que les choses tiennent ensemble. Et c'est une question qui se pose à la fois quand on a traversé un siècle qui a été celui de deux affrontements mondiaux, les hommes se sont entre-déchirés. Qu'est-ce que c'est qu'une société humaine? Comment est-ce qu'elle fait pour tenir? Comment on tient ensemble en tant que société, mais c'est aussi une question qui se pose à l'échelle de l'individu. Notamment parce que ces guerres ont fait surgir des nouvelles pathologies, pensez à Septimus chez Virginia Woolf. Comment est-ce qu'un individu tient? Comment est-ce qu'il se contient? Comment est-ce qu'il arrive à tenir bon? Comment est-ce qu'il arrive à ne pas exploser, à ne pas devenir fou? Alors, là-dessus, le rôle de Guattari est très très important, parce que Guattari n'est pas un philosophe de formation, disons, c'est un psychanalyste et un psychiatre. Donc les questions qui touche à ce qui concerne l'inconscient. C'est surtout lui qui les a insufflés dans la production de Mi-Plateau. Bon, Mrs. Dalloway, c'est vraiment un bon exemple pour toujours essayer justement de trouver des exemples à l'appui de la théorie de Deleuze et Guattari. C'est un roman, on dirait que c'est un roman deleuzien-guattarien. C'est un peu ce que je vous ai expliqué la dernière fois, puisque moi j'utilisais Deleuze et Guattari pour lire Mrs. Dalloway, mais c'est comme si elle avait eu la préscience d'un grand nombre de leurs recherches, quoi. À travers le biais qui était le sien, c'est-à-dire le roman. Alors, état et inconscient, et le corps articulé à l'inconscient. Ces deux notions qui renvoient à des structures sociales et ou individuelles qui sont potentiellement susceptibles d'aliénation. C'est un des grands termes de la théorie du XXe siècle, venu du marxisme, mais aussi utilisé par Freud. L'aliénation, donc le fait d'être détourné de ce qu'on pourrait être. L'État comme l'individu peuvent être aliénants ou aliénés au sein d'un système économico-politique global qu'on appelle le capitalisme. Et c'est pour ça que le surtitre de Mi-Plateau, c'est « Capitalisme et schizophrénie ». L'État et l'individu, tels que Deleuze et Guattari les analysent à l'époque qu'est la leur, sont pris tous les deux dans un système politico-économique qu'on appelle le capitalisme et qui pose question. Donc il y a un premier problème d'aliénation potentielle qui est lié aux formations, à la manière dont le monde est formé, au niveau de la société et au niveau de l'individu. Et ça se double d'un autre problème qu'empoigne à bras-le-corps Deleuze et Guattari, allègrement, parce qu'il faut quand même avoir du courage, c'est qu'il existe déjà, avant qu'ils écrivent, des théories qu'on a pu appeler d'ailleurs des théories de la libération. Au niveau de l'État, à l'époque où ils écrivent, la théorie de la libération la plus puissante, mais c'est pas la seule, c'est le marxisme. au niveau de l'individu, le discours le plus puissant qui se prétend être un discours de libération, c'est la psychanalyse, Freud, Lacan. Et puis pour les deux autres notions que j'ai mises de côté là, pour la prochaine fois, le signe et puis les structures et les échanges, les théories les plus prégnantes, c'est celle de Saussure pour la linguistique, j'allais dire Chaussure. Donc Chaussure et Lévi-Strauss. Pourquoi est-ce que le problème se redouble? Parce que non seulement l'État et l'individu sont sujets à l'aliénation, mais en plus, ces théories de la libération, d'après Deleuze et Guattari, elles marchent pas. Ou elles marchent mal. Elles posent des problèmes. Et eux, Deleuze et Guattari, plutôt que de répondre par Marx, Freud, Lacan, Saussure, Lévi-Strauss, ils vont critiquer ces auteurs en utilisant à la place, vous n'êtes pas obligé de noter là tout de suite, Nietzsche, Bergson, Bateson, dont je parlais pour la notion de Platon, et Pierre Clastre, en ethnologie. Un ethnologue très très important sur la question de l'État, à laquelle je vais venir. Et ils essayent d'articuler tout ça, leur espèce de, donc vous avez compris, de contre-discours de la libération. Ils essayent d'articuler tout ça autour d'une notion libératrice, centrale, qui est difficile à bien comprendre, et qui est le deuxième terme du surtitre de Plateau, capitalisme et schizophrénie. Ils essayent de nous faire comprendre qu'il y a une forme de schizophrénie qui est libératoire. Alors évidemment, ça fait beaucoup de mal, cette proposition. Il y a des gens qui se sont dit, bon, moi je me sens pas très bien dans ma vie, j'ai des problèmes avec mon père, avec ma mère, avec mon travail, etc. Bon, je vais me faire schizophrène et tout va bien se passer. Donc évidemment, ça a produit pas mal de trucs, soit drôles, soit tragiques. Donc je vous parle de surtitre parce que ça c'est très important, je l'ai pas encore signalé. Capitalisme et schizophrénie, c'est le titre global d'un ensemble dont Mille Plateaux est la deuxième partie. La première partie étant l'anti-Œdipe qui est apparu 8 ans plus tôt, en 1972. Donc l'anti-Œdipe, on voit bien, hein, il y a vraiment là, en priorité, le désir de s'attaquer anti, c'est une démarche intellectuelle très violente, de s'attaquer, disons, surtout à Freud, plus qu'à Lacan. Il s'attaque aussi à la psychanalyse, vraiment, vraiment. Mais il s'attaque aux psychanalystes en y voyant une nouvelle variété de prêtres, en fait. Ça, c'est très intéressant. Ils disent que le psychanalyste est une résurgence du prêtre. C'est-à-dire quelqu'un qui porte la méthode de Platon et qui dit « ce qui est le plus vrai, c'est ce qui est le plus pur, donc c'est pas nos vies ». Nos vies sont soumises à des étalons inatteignables. C'est leur interprétation. Voilà. Donc, une notion libératoire proposée par ce bouquin. Ça lui donne un aspect, la schizophrénie, ça lui donne un aspect, une sorte de manuel du bonheur. Je vous parle de la joie depuis le début. Bon, c'est pas si simple, évidemment. C'est pas un livre à recettes qui nous dit « Vous avez tel type de problème, réglez-le comme ci, tel type de problème, réglez-le comme ça », du type de ces bouquins qui sont classés au rayon de développement personnel, dans les librairies plus ou moins bonnes. Vous ne verrez jamais Mille Plateaux au rayon développement personnel. Deleuze et Guattari nous mettent vraiment en garde par rapport, disons, au rêve du livre solution. Voyez, et ils font ça, très intelligemment, parce qu'ils savent qu'ils vont se taper des problèmes, à la toute fin, juste avant la conclusion, dernier plateau, qui n'est pas forcément lu en dernier, donc, mais quand même, ils se disent, bon, au cas où on a quand même des lecteurs qui restent bien scolaires et qui lisent ça dans l'ordre, on va mettre vers la fin. C'est dans un très très beau plateau qui s'appelle le lisse et le strié, qui oppose ces deux types d'espace en reprenant ces deux notions au compositeur Pierre Boulez. Le lisse et le strié. Le strié, par exemple, ce serait le système des chemins de fer dans un état centralisé comme le nôtre. Et le lisse, ce serait le désert traversé par les Touaregs. Vous voyez ? Bon, pour le dire très vite. Et en gros, ils disent la joie, elle est plutôt du côté de l'espace lisse. L'espace strié, c'est un espace très étatisé, où on dépend de tout un tas de lois, etc., etc. Mais ils nous disent à la fin du chapitre, c'est la dernière phrase de Le Lys et Le Strié, « Ne jamais croire qu'un espace lisse suffise à nous sauver. » Bon, ça c'est une mise en garde importante. Avec l'anti-Œdipe, il y a eu des problèmes en fait. Il y a des gens qui ont vraiment essayé d'appliquer l'anti-Œdipe et bon, enfin voilà, ça n'a pas bien tourné pour eux, quoi. Donc là, quand ils écrivent Mille Plateaux, ils se disent « Bon, quand même, on va prendre des précautions, quoi. » Se méfier de l'aspect manuel du bonheur. Mais il s'agit, en tout cas, quoi qu'il arrive, d'une tentative d'ouverture. Disons d'ouverture, ça oui. Par rapport à des institutions qui potentiellement nous bloquent, que ça soit au niveau de la société ou au niveau de l'individu. Et il s'agit d'une tentative de synthèse intellectuelle absolument colossale dans une période qui investit beaucoup d'espoir dans la production intellectuelle. Ça, il faut bien se remettre dans cette période pour saisir l'ambition d'un tel travail, quoi. On est dans une période de production intellectuelle complètement foisonnante. Il y a 10 bouquins par mois qui sortent tous les jours, qui sont géniaux. Donc c'est des types qui assimile une quantité de savoir débordante. Donc je vais m'attaquer à la notion d'État.